Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Et le devenir, vive le campus!
Un campus, bah, étymologiquement parlant, c'est un champ, un vaste champ, je crois que ça convient bien au cas d'Orléans. Je le conçois comme un champ que ne sépare aucune haie, les haies c'est toujours stérile, ce qui doit favoriser, théoriquement du moins, une meilleure compréhension entre les étudiants des diverses disciplines, entre les filles, les garçons, etc. etc.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Enfin du latin après l'anglais. C'était le recteur Antoine, créateur du campus de la Source, non loin de Blois, où nous sommes en compagnie de Pierre Vels. Bonjour Pierre Vels.
Bonjour, bonjour.
Pierre Vels, il faut que je vous dise, c'est un homme très classique, X et l'école des ponts. Vous voyez, dans les campus américains, il y a des sociétés secrètes, des confréries, et nous, nous avons les grandes écoles, c'est un peu la même chose. Mais cet homme classique est un homme de greffe, parce que à l'école des ponts, vous avez dirigé un moment, vous avez introduit des sciences humaines.
Oui. Oui, on a fait des labos avec des historiens, même des sociologues, voilà, parce qu'aujourd'hui, les sujets, on ne peut pas séparer comme ça les sciences physiques, les sciences de l'ingénieur et puis les questions sociales, tout ça est complètement mêlé.
Cultivateur de la greffe, vous avez essayé de greffer mines et ponts.
Oui, oui, ça c'était l'idée de rassembler, de regrouper un peu ces grandes écoles françaises qui sont, on les dit grandes, mais elles sont très petites à l'échelle internationale, elles ne pèsent pas beaucoup.
Ça portait peut-être un nom anglais, le projet, non?
Non, ça portait pas de nom anglais.
Hightech, non,
non, non, non, non. Ah, Paritech, si on l'a appelé, on a appelé ça Paritech.
Vous voyez, donné, voilà. Et puis, autre grande tentative de greffe, sur une échelle beaucoup plus importante, le plateau de Saclay, sa liaison avec l'université d'Orsay. Vous avez été pendant plusieurs années présidente de l'établissement public qui a commencé à monter cette grande opération qui est peut-être un peu au milieu du guet aujourd'hui, mais nous en parlerons. C'est bien d'avoir commencé avec du latin parce que vous vouliez dire que le campus avait été largement inventé, peut-être par l'université italienne au Moyen-Âge, mais aussi par l'université parisienne.
Oui, on peut dire que les premiers grands campus, c'était effectivement les villes universitaires du Moyen-Âge. Paris, en premier rang quand même, hein, à l'échelle européenne et mondiale. À l'époque, toute la rive gauche de Paris, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier latin, était en fait un campus, avec d'ailleurs beaucoup d'espaces libres. Hein, un peu comme, alors après, on a eu Oxford, Cambridge, Louvain, qui a divorcé, comme vous savez sans doute. Ils sont scindés en deux, les Flamands et les francophones.
Ça, ce sont les campus emboîtés dans la ville.
Oui, alors ça, ce sont des campus-villes. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a essayé quand même de reproduire en partie ce modèle. Par exemple, les grandes universités d'élite aristocratique, on pourrait dire, de la côte Est, ça s'appelle l'Ivy League. Ivy, c'est le lierre. Hein, donc, vous voyez, c'est l'idée qu'on a ces bâtiments néo-gothiques en lierre, qui rappelle à la fois la vieille Europe et le côté quand même très select, quoi. Il faut être un peu entre soi.
Président Saclay, qui voulait être ouvert à tous les vents, c'est le cas de le dire, parce qu'à Saclay, il y a du vent sur le plateau, vous avez visité ces universités américaines que vous aviez déjà pratiquées. On peut s'arrêter un instant sur Berkeley qui suscitait l'admiration en France, c'était avant le temps des émeutes et des grands mouvements sociaux. Nous sommes au milieu des années 1960, visa pour l'avenir à la télévision française.
Sur la colline, au-dessus de l'université, se trouve le laboratoire des radiations. C'est un centre de recherche et d'enseignement supérieur financé en commun par l'université et par l'administration américaine de l'énergie atomique. Les travaux faits ici ont valu 6 prix Nobel aux États-Unis.
On est frappé quand on parcourt une université américaine, et notamment à Berkeley, par l'importance des moyens qui sont mis à la disposition aussi bien du corps enseignant que des chercheurs. Est-ce qu'on peut chiffrer cela?
Oh, peut-être. Nous comptons, par exemple, dans le domaine de haute énergie, physique de haute énergie, nous comptons à peu près 100 000 $ pour un doctorat moyen, n'est-ce pas?
100 000 dollars, ça fait 500 000 francs.
Oui. je ne compte pas très bien en francs.
Oui.
Oui.
Est-ce qu'il y a des liaisons assez importantes entre l'université et l'industrie à Berkeley?
Oui. Dans le domaine des ingénieurs, il y a beaucoup plus que dans le domaine de physique et de biologie. Mais la moitié, peut-être, même dans la physique, vont dans l'industrie éventuellement.
Alors vous qui parlez bien anglais, Pierre Wetz, vous dites Berkeley? Non, moi, je comme Jean-Lallier à la télé.
Non, moi je dis Berkeley, comme tout français.
Jean-Lallier, il est...
Je dis Harvard aussi, comme...
Il est émerveillé, Jean-Lallier, devant l'argent qui tombe à flot.
Oui, alors c'est le système universitaire américain est extrêmement divers. Hein. Il y a des grandes universités publiques, c'est le cas de Berkeley, qui est une université publique de l'État de Californie. Des très grandes universités privées que tout le monde connaît, Harvard, Yale, etc., Chicago, la plupart des grandes universités qui sont dans le top 10 des classements internationaux sont des universités privées. Et puis vous avez une foule de petites universités, parfois même d'universités réduites au premier cycle, ce qu'on appelle des collèges. Donc c'est un système extraordinairement divers. Mais c'est vrai que les têtes de classe, là, les leaders sont extraordinairement riches quand on les compare aux universités françaises. Je vous donne juste un chiffre, si vous voulez. Si on prend les trois universités que sont Harvard, Yale et Stanford, qui restent toujours les j'ai pas Berkeley là, mais dans les premiers rangs, leur budget cumulé annuel est de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est le budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, c'est 25 milliards de dollars. Oui, le budget que gère le ministère. Ça donne une idée. Et 40%, enfin une grande partie de cet argent, de ce chiffre d'affaires annuel, en fait, vient des revenus de ce qu'on appelle l'endowment, c'est-à-dire les dotations. Vous savez, les anciens, quand ils sont riches aux États-Unis, ce qui n'existe pas du tout en France, ils rendent de l'argent à leur alma mater, à leur université d'origine. Il y a un système fiscal, évidemment, qui favorise ça. Et là, l'endowment cumulé de ces trois universités, c'est 100 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout, malheureusement, j'allais dire, parce qu'intellectuellement, évidemment, on a tous les moyens d'être dans la concurrence, mais financièrement, on ne joue pas dans la même cour.
Tout à l'heure, Mathieu Vidard parlera du rôle du voyage dans la découverte scientifique. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers dans un livre qui s'intitule « Des lieux et des liens », Pierre Wetz. Un livre bien nommé par notre sujet. Vous parlez-vous des impatriés?
Oui, c'est le contraire des expatriés.
Voilà. C'est mieux, impatriés.
Hein, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que ces grandes universités jouent aussi un rôle formidable d'aimant pour faire venir les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants du monde, en particulier d'Asie. Hein. Si vous allez aujourd'hui sur les campus en Californie, par exemple, vous avez vraiment l'impression d'être de l'autre côté du Pacifique, parce que les Chinois et les Indiens sont extrêmement présents. 70% des doctorats dans les sciences et technologies, les mathématiques, l'ingénierie, etc., la physique, sont faits par des étrangers et en grande majorité asiatiques. Ce sont des gens, après, qui retournent dans leur pays d'origine, et qui joue un rôle déterminant. Toute l'industrie, par exemple, de Taïwan, tout le système économique de Taïwan a été bâti par ce qu'on appelle des returnees, des gens qui ont fait leurs études à un moment donné dans les universités américaines, et qui ont d'ailleurs un peu cloné le système américain ensuite, notamment en développant la microélectronique de manière
massive. Autre publication sous votre signature, la Société hyper-industrielle, et alors vous signalez qu'à une époque très contemporaine, le passage à la Société hyper-industrielle, j'imagine, le lien financier entre les entreprises privées et ces grandes universités américaines a changé de nature, de volume aussi.
Oui, c'est-à-dire que jusque dans les années, on va dire 80, l'université avait quand même comme rôle fondamental de sélectionner, l'université sélective, et de former les cadres dans tous les domaines de la vie sociale. Hein. Bon. Et c'est avant tout une institution d'enseignement. Et puis petit à petit, la recherche est devenue très importante. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les grandes entreprises ont un peu arrêté de faire de la recherche de base parce que ça coûtait trop cher et se sont à ce moment-là beaucoup rapprochées des campus. Un exemple très simple, c'est la pharmacie. Hein, où quand la pharmacie a pris le virage de la chimie vers les biotechnologies, Eh bien, les grandes boîtes de pharma se sont dit qu'elles avaient besoin de recherche de base, de recherche fondamentale, qu'elles n'avaient pas les moyens de développer en interne, et donc elles se sont énormément rapprochées des campus. Donc aujourd'hui, les campus, moi j'appelle ça des plateformes industrialo-universitaires. Vous voyez, le côté industriel, technologique, orienté vers les applications et le côté universitaire, au point que ce sont les cœurs battants aujourd'hui de l'économie américaine et de l'économie des pays développés.
N'oubliez pas quand même cet autre aspect, luxe, calme et volupté. Dans les années 1970, Edgar Morin publiait le journal de Californie qui provoquait beaucoup d'étonnement en France, où il racontait son séjour dans un institut au bord de l'océan.
Ceux qui sont résidents ont des laboratoires où ils ne sont pas prisonniers des disciplines particulières. Autrement dit, l'un n'est pas condamné à faire, par exemple, telle ou telle étude de biologie animale ou de biochimie. Il peut modifier selon ses idées, ses inventions, son laboratoire. Et du reste, les cloisons des laboratoires sont mobiles, ce qui fait que quand un laboratoire étend ses recherches, il s'étend comme un accordéon. Puis quand il est rétréci, il se rétrécit. Alors, déjà, cet institut, du point de vue architectural, est très extraordinaire. Déjà, c'est un des beaux monuments de l'architecture moderne. Il est sur une colline dominant la mer.
Quand l'océan.
Sur l'océan, oui, sur l'océan Pacifique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les fenêtres regardent vers l'océan et que du côté de la Terre, du côté de la route qui arrive, on dirait une sorte de blockhaus ou de forteresse médiévale ou, je ne sais pas, blockhaus science-fiction, chose extrêmement archaïque. Et on découvre de l'intérieur qu'il y a des laboratoires. L'intérieur, il y a une sorte de grand patio. C'est un peu le style Alcazar de Grenade, enfin, en abstrait, en moderne. Vous avez de l'eau qui coule, une petite cascade. Et donc, ces bâtiments renferment des laboratoires.
Et encore, Morin n'avait-il pas vu les grands gestes architecturaux qui sont maintenant posés par des virtuoses sur le gazon des campus?
Oui, un peu partout, l'architecture redevient un élément majeur de l'image. C'est pour l'image de marque, évidemment. Il y a un aspect de communication là-dedans. Donc, tous les grands campus aujourd'hui, c'est vrai aussi en France, on va en dire un mot, je pense, font la chasse aux grandes signatures architecturales. En Europe, un projet qui a beaucoup fait parler et rêver, c'est à Lausanne, à l'École polytechnique de Lausanne, sur les bords du Léman, un bâtiment très extraordinaire, qui a été fait par une architecte japonaise qui s'appelle Sejima, si ma mémoire est bonne, qui est aussi l'architecte du Louvre à Lens. Je ne sais pas si vous connaissez le Louvre à Lens, c'est un bâtiment magnifique. Et voilà, et ça s'appelle, c'est une bibliothèque, mais ça s'appelle un Learning Center. Ici, nous sommes au Learning Center Abbé Grégoire, hein, c'est ça.
Et vous savez, à Blois, les gens viennent un peu partout, c'est un tout petit monde qui englobe le monde. C'est d'ailleurs le cas de ces univers parallèles que sont les campus. Il y a toute une littérature du campus, de même qu'il y a tout un cinéma du campus.
Oui, alors surtout aux États-Unis, en France, les campus sont un peu plus noyés dans la ville, ou alors ils ne sont pas résidentiels. On ne vit pas sur un campus. Il y a peu de résidences étudiantes. Enfin, voilà. Aux États-Unis, ce sont des petits mondes en soi, parfois des petites villes, parfois carrément dans la campagne. Et ça fait une espèce d'archipel un peu parallèle, vous voyez, on peut vivre là-dedans très, très agréablement. Les bibliothèques sont fantastiques, alors évidemment, ça change un peu pour la France, au point que les chercheurs passent un peu leur vie à recycler ce qu'il y a dans les bibliothèques, ils n'ont pas besoin de sortir, ils ont tout sur place. Il y a un confort formidable. Et en même temps, parfois, peut-être, c'est un monde un peu étouffant.
Cependant, le cinéma de campus pose des questions structurantes qui se posent à tout individu, puisque beaucoup de spectateurs américains qui vont voir des films sur les universités ne sont jamais allés à l'université. C'est comme le monde judiciaire, des questions fondamentales y sont posées, à qui y entre ?
Oui, c'est vrai, il y a un cinéma de campus, de plus ou moins bon niveau, d'ailleurs. Il y a le côté potache aussi, un peu. Voilà, le campus, c'est quand même un lieu d'expérience pour les jeunes Américains qui sortent de l'univers familial. Mais il y a aussi, par exemple, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu The Social Network, qui raconte l'histoire de l'origine de Facebook. C'est très, très bien, ça se passe à Harvard, et on voit M. Zuckerberg, qui est un étudiant pas tout à fait modèle, d'ailleurs, assez indiscipliné, monter Un réseau très local au départ.
Très local, oui. Aux intérêts très localisés. Luxe, calme et volupté, si Sex and Son, donc un cinéma de campus avec des niveaux fort différents. Ici, le jeune Dustin Hoffman sort du campus. Il a gagné ses lauriers de lauréat. Et il est au bord du lit ou de la piscine, je ne sais plus bien, de Mrs. Robinson. Et il ne pourra échapper à l'étreinte de Mrs. Robinson qu'avec la fille de Mrs. Robinson.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Merci. Bon, t'as un bon plan pour ce soir, Finch ?
Oui, j'en ai un et il est infaillible, vieux.
J'ai une question à vous poser, sérieuse. Vous connaissez Nadia, la jolie tchèque. Elle sera peut-être là ce soir. Alors, vous croyez qu'elle aimera mieux... le gym relax ? Ou... le gym branché ?
Et à la fac, t'as des cours intéressants ?
Ouais, surtout le féminisme postmoderne.
Ah, ça doit être cool. Quelle belle nuit, hein ?
Je trouve aussi.
Je dis toujours, c'est quand même bien le printemps. Non, c'est vrai, c'est cool, quoi. Je sais pas, c'est peut-être l'odeur de la pluie et tout ça, quoi.
Mm-hmm.
Suce-moi, ma poule.
Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ?
Suce-moi, ma poule.
C'est ça le moteur de la vie à la fac. Est-ce que quelqu'un couche ou non ? Voilà pourquoi les gens suivent certains cours, qu'ils s'assoient là où ils s'assoient, qu'ils font ce qu'ils font. Et c'est sur cette idée centrale, en gros, que ce Facebook va s'appuyer. Le fait que tout le monde se connectera, parce qu'après tous les apéros, cacahuètes et chips, ils seront une réelle occasion de niquer, rencontrer une vie. Oui. C'est vraiment fort. Et c'est fait.
Le campus, aujourd'hui, le campus sexy aux États-Unis, nous sommes à Blois. Au rendez-vous de l'histoire, en compagnie de Pierre Vels. J'entendais le fondateur des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai nommé Jacques Lang, parler de l'institution qu'il dirige maintenant, et demander « Est-elle pauvre, mais n'est-elle pas sexy ?» Et alors, je voulais poser au public qui est ici, au Learning Center Abbé Grégoire, cette question à propos du premier campus qui a été créé en France, non loin d'ici, la source. Vous me répondez oui ou non. Est-ce que c'est pauvre et sexy ? Pas de réponse. Alors, la source, Pierre Vels, ça a été créé en 1966 par le recteur Antoine, mais surtout par les ministères. Ça fonctionne comme ça. Dans notre pays, c'est pyramidal et ça ruisselle, la théorie du ruissellement. Et c'est un campus qui ressemble pas vraiment aux Américains, encore que le maire de Blois de l'époque, le prédécesseur de Jacques Lang, Pierre Sudreau, disait... C'est Oxford. Qu'est-ce qu'il disait ?
Oxford sur Loire.
C'est ça ? Oxford sur Loire. Là, vous n'êtes pas d'accord, si, dans le public.
Ouais. En 59, il a dit ça. Hein. J'ai vérifié sur l'internet hier soir.
Allez, racontez-nous les charmes du campus à la française tel qu'il est imaginé par les administrations de l'éducation nationale.
Oh ben, en France, on n'a pas vraiment cette tradition des campus à l'américaine dont on vient de parler. Ils ne sont pas d'ailleurs seulement en Amérique, hein, qui sont un peu copiés aujourd'hui dans le monde entier. L'enseignement supérieur a été longtemps localisé dans les centres-villes. Puis après, on a fait des des extensions de banlieue parce qu'il fallait accueillir la masse des étudiants. Il y avait un aspect démographique, quoi. Donc ça a été Nanterre, par exemple. Bon, les premiers, c'est vrai, il y a eu la source, mais il y a eu aussi Caen. Hein. Caen était un des premiers campus au début des années 60. Et puis après, on a fait des extensions comme Nanterre, bien connue.
Nanterre, la folie.
Dans le déclenchement Nanterre, la folie, dans le déclenchement de 68. Et puis après, Villetaneuse, enfin, puis les nouvelles universités des plans Jospin, Allègre, etc. Et on a été toujours quand même sous la pression du nombre. Il faut accueillir les étudiants.
Décongestionner.
Et ce sont en général des endroits qui ne sont pas des campus au sens où ce ne sont pas des lieux de vie. Le campus à l'américaine ou dans d'autres pays, c'est un lieu de vie total. Il y a de l'enseignement, il y a de la recherche, mais aussi les loisirs, les sports ont un rôle absolument fondamental. Hein. Campus américain sans son équipe de foot, ça n'existe pas. Il y en a même dont la principale activité est de développer leur équipe de foot. Voilà. Chez nous, on a spécialisé un peu les fonctions, les a mis en dehors des villes, et donc ça donnait une image plutôt un peu triste quand même.
Vous avez cité voilà. Claude Allègre et Lionel Jospin, mais est venu Nicolas Sarkozy, vis-à-vis duquel vous avez une dette, vous?
Oui, enfin, je n'ai pas de dette particulière.
C'est pas le président qui aimait le plus l'université, mais il a donné beaucoup d'argent.
Oui, c'est vrai que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis à la fois dans le plan campus, par le biais du grand emprunt. C'est vrai que c'est un moment où on a commencé à investir de manière très importante pour à la fois développer de nouveaux projets et remettre à niveau le plan campus avait été fait pour remettre à niveau les campus existants, parce que une grande partie de l'argent du immobilier du ministère de l'enseignement supérieur avait été mangé par l'opération de désamiantage de Jussieu qui était extrêmement cher. Et
donc, Claude Allègre cité une deuxième fois donc dans cette émission. Voilà. On va en venir à l'opération que vous avez conduite en tant que président d'un établissement public qui fédère Orsay un peu en bas là, en contrebas du plateau de Saclay. C'est un extrait là de ces petits films de propagande qu'on diffuse avant les conférences avec PowerPoint où on mobilise l'esprit des responsables. Ça donne à propos de Paris Sud ceci.
Plus grand campus universitaire de France, l'université Paris-Sud 11 accueille 27 000 étudiants sur ses 5 sites. Avec plus de 500 000 m² de locaux répartis sur 270 hectares, Paris-Sud 11 offre à ses étudiants un cadre d'études et une qualité de vie véritablement unique.
Et on n'a pas parlé du deuxième campus relié au premier par un sentier muletier qui part de la gare RER, qui arrive sur un plateau encore largement agricole. Propagande toujours cinématographique pour Saclay.
Alors, sur le plateau de Saclay, on a de nombreuses institutions grande renommée qui se sont installées depuis le début des années 50 jusqu'à maintenant. Des établissements de recherche, des universités, des grandes écoles, des grandes infrastructures scientifiques comme Synchrotron, qui font un ensemble d'une très grande qualité dans le monde. Actuellement, d'autres institutions, grandes écoles, universités, etc., veulent les rejoindre. Mais aussi des centres de recherche privés, d'entreprises, qui souhaitent venir s'y implanter, de plus en plus nombreuses, qu'elles soient françaises ou étrangères.
Mais au bout de quelques années, vous pouvez parler librement, puisque vous êtes à la retraite maintenant, Pierre Vels, l'école polytechnique a tourné le dos. Les grandes écoles qui sont associées à Saclay craignent de perdre leur personnalité morale. Et finalement, ça va s'appeler l'université Paris-Saclay. Enfin, la priorité va être donnée comme poisson pilote à la bonne vieille université publique, les grandes écoles suivant moins bien.
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier Saclay, il y a eu depuis en fait un demi-siècle beaucoup d'implantations dont on a cité tout à l'heure Paris Sud, qui est d'ailleurs un campus, un peu un très beau campus, très arboré, un peu à l'américaine, dans la vallée. C'était un domaine qui appartenait à un collaborateur sur lequel Joliot Curie a mis la main gratuitement, bien sûr, dans les années 50. Bon. Et puis, il y a HEC, il y a Polytechnique, tous ces établissements, Supélec, tous ces établissements, le CEA, tous ces établissements se sont mis sur ce plateau parce qu'ils étaient à l'étroit dans Paris-Centre, mais ils ont oublié de travailler ensemble. Hein. Ils étaient là et sur un espace extrêmement grand. Donc le projet de Paris-Saclay, c'est comme ça qu'on l'appelle, il a deux aspects très simples. Le premier, c'est de fédérer tous ces établissements qui, ensemble, couvrent le spectre d'une très grande université de rang mondial. Voilà. Et puis, deuxièmement, d'avoir un aménagement. Moi, j'étais plus spécialement chargé de ce volet-là, qui, on a appelé passer d'un un campus-ville, c'est-à-dire créer quand même autour des établissements des zones résidentielles, de façon à avoir tout simplement des bistrots, des commerces, etc.
Oui,
ce qui manque cruellement aujourd'hui.
ma question, je vais la préciser avec un propos de Cédric Villani, qui sera demain l'invité de Mathieu Vidard et qui est maintenant le député de Saclay.
Oui.
Il dit, mais Pierre Vell, c'est quand même compliqué en France de monter quelque chose comme ça, parce que vous avez combien d'interlocuteurs, vous demande-t-il, 20, à quoi vous répondez?
Non, plutôt 200, quoi, voilà. C'est vrai que j'ai vu Cédric Villani, il m'a dit, mais c'est fou le nombre d'interlocuteurs, il a dû me dire 20, une vingtaine. J'ai dit, non, il y en a beaucoup plus. Quoi.
C'est une des explications des difficultés.
Non, mais c'est normal. En même temps, on a toutes les collectivités territoriales, il y a beaucoup d'entreprises aussi, c'est un très grand pôle d'entreprises. Il y a toutes les écoles et les universités, avec beaucoup de ministères. Hein. Il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale, il y a tous les ministères techniques. Les polytechniques dépendent de la défense. Après, vous avez AgroParisTech qui dépend de l'agriculture. Donc tout ça, évidemment, est compliqué. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, sur le volet, effectivement, la première idée, c'était de fédérer vraiment les universités. Il y en a deux, celle qu'on a évoquée de Paris-Sud et puis celle de Versailles-Saint-Quentin. Plus d'ailleurs celle d'Evry maintenant qui est associée, et puis les 10 grandes écoles qui sont présentes sur le site, et de faire un ensemble unique qui existe d'ailleurs sur le papier aujourd'hui, qui s'appelle l'Université de Paris-Saclay, on n'est pas obsédé par les classements, mais enfin ça donne un élément de repérage, et quand même dans les 20 premières universités du monde. Hein, voilà, donc c'est un enjeu pas seulement pour Saclay, c'est un enjeu pour la France. Bon, et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu, parce qu'une partie des grandes écoles, et polytechniques en particulier, a eu peur, les anciens ont eu peur de perdre un peu dans cette opération leur marque, ce qui est tout à fait responsable et légitime. Et donc on s'oriente plutôt aujourd'hui vers un bipôle. Il y aurait un premier pôle, mais dans lequel il y aurait quand même des universités et des grandes écoles, centrales, Supélec, etc., et puis un pôle plutôt autour de Polytechnique, mais tous ces gens travaillant en bonne intelligence.
On l'a compris, c'était pas bancal. Mais de toute façon, boiter, c'est du style. C'est une formule qu'il faut retenir.
Et quand on est quand les journalistes disent souvent on est au milieu du guet, mais quand on est au milieu du guet, c'est aussi que l'autre rive est en vue. Hein.
Pas mal dit. Merci à vous, Pierre Vels, des lieux et des liens. La société hyper industrielle. Vous retrouvez Mathieu Vidard sur le sujet des lieux d'invention depuis les rendez-vous de l'histoire. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Frédéric Martin. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. Et je laisse à Mathieu Vidard le soin de donner tout à l'heure la liste des merveilleux techniciens qui nous ont accompagnés.